Il est 9h. Direction le jardin en compagnie d'Isabelle Donignad et Laetitia Agostini. Ma petite Letty, soyez la bienvenue.
Bonjour, on se connaît.
Oh là là, la pique vengeresse.
Bonjour. Mais
bien sûr qu'on se connaît depuis des siècles, j'ai envie de vous dire. Vous vieillissez bien, vous ne faites pas votre âge.
Je vous retourne le compliment.
04 95 32 22 22, si vous voulez parler en direct à notre jardinière experte, vous n'hésitez pas à décrocher votre téléphone ou à dégainer votre smartphone ou ordinateur pour
des
nous
photos.
Envoyer oui, des photos accompagnées d'un petit peu d'éléments, s'il
oui.
vous plaît. Vous contextualisez, où est-ce que se trouve votre végétal, combien il a, lui aussi, en âge, comment vous l'arrosez éventuellement et de quoi souffre-t-il
si on n'est pas obligé de mentir sur l'âge des arbres comparé
non,
à nous.
Normalement, non, je crois qu'ils ne vont pas se vexer. Et ça nous donnera surtout des indications. Nous sommes curieuses et indiscrètes.
Et puis, on n'hésite pas à prendre plusieurs photos. Une oui. plus rapprochée, une plus éloignée. Parce que parfois, on reçoit une photo. Ah oui, on a bien le zoom sur le symptôme. Mais après, c'est quoi ça comme plante ?
Eh oui, et puis est-ce qu'il y a un mur à côté ? Est-ce qu'il y a
voilà.
de l'ombre ? C'est vrai
donc,
que ça peut
ça
aider.
Mange pas de pain, on en envoie un grand lot.
Vos questions à Laetitia Agostini, de 9h à 10h sur RCFM.
Laetitia, est-ce que vous êtes satisfaite du temps ?
Oui.
Bon, ben voilà, enfin une bonne réponse.
Il pleut un petit peu. Bon, après, on satisfaite. La semaine dernière, on a quand même eu un épisode de grêle.
Ouais,
on compatit
ouais,
avec
ouais,
les producteurs ouais. qui ont certains beaucoup perdu.
Et puis de froid, alors que beaucoup de fruitiers étaient voilà. en fleurs. Ça, c'est préjudiciable.
Mais on n'a pas eu trop de gros épisodes de gel. Les seins de glace se rapprochent petit à petit, gentiment. Donc, on sort de la zone rouge, de la zone de risque. Par contre, ces petites pluies-là... alors, je pense qu'il y a plein de gens qui vont râler parce que c'est les vacances scolaires depuis hier soir et que la semaine prochaine, il est prévu pas mal de jours de pluie.
Eh oui.
Mais tant mieux, il y a de l'herbe. Moi, je vois mes agnelles, elles se régalent avec leur herbe. Mais bon, le matin, c'est humide et voilà. Après, je pense qu'à un moment donné, le bénéfice pour la nature doit l'emporter sur notre bénéfice personnel.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, c'est le moment aussi de planter des racines bien profondes,
voilà,
d'aller chercher
ils
l'eau.
Sont, ils explosent, là, les végétaux. Bon, ils ont été un petit peu ralentis par ce coup de froid. Mais sinon, on est en plein démarrage. C'est magnifique, la nature, en cette saison. Et avec cette humidité, ben, on voit qu'elle ne souffre pas encore. Donc ça, c'est bien.
Les seins de glace, c'est à la mi-mai. Leur nom, on le sait, est associé à des risques de gelée tardive.
Saint-Servais le 13 et Saint-Mamère, c'est un peu quelque chose, le 11. Mais avant Saint-Servais, risque de geler, après Saint-Servais, c'est l'été.
Et voilà, Saint-Servais 13 mai, donc, et Saint-Mamère le 11 mai.
Mamère, voilà.
Avec pancrace au milieu.
Oh, ben, je confonds mamée, la compote.
Le tout, c'est qu'on retienne qu'à la mi-mai, on peut effectivement sentir le risque de froid s'éloigner et respirer, effectivement. Une première question nous vient de Messenger, Letty.
Vos questions à Laetitia Agostini, de 9h à 10h sur RCFM.
Je souhaite déplacer 3 éléagnus de ma haie. Est-ce que je peux le faire maintenant et comment m'y prendre ?
Alors maintenant, c'est un peu trop tard. Il vaut mieux le faire à l'automne ou
oui.
plutôt dans la saison parce que là, ils ont commencé à vraiment bien s'enraciner. Et j'ai peur que si on n'a pas un peu d'eau, encore des températures clémentes ou autres, ils n'arrivent pas à bien se remettre en place avant l'été. Donc, il peut le tenter, la personne peut le tenter, mais pour moi, c'est un risque. Et après, il faut savoir qu'il faut prendre une motte bien plus
conséquente,
grande que,
ouais.
que la partie extérieure et faire un trou aussi très grand. Donc, c'est un chantier quand même un petit peu d'envergure, suivant la taille des éléagnus. Après, s'ils ont été plantés l'an dernier, qui font 50 cm, c'est beaucoup plus simple. Mais moi, j'aurais attendu l'automne, les pluies d'automne, ça serait bien.
Oui, puis même parce que pour creuser le sol, ça va être plus facile. Bon, encore que là, c'est un peu humide, ça
alors,
va.
Alors là, franchement, si vous me donnez le choix, soit creuser en octobre 2023, soit en avril 2024, je choisis avril 2024. Parce que comme on a eu un automne très sec, je pense qu'il aurait été très difficile de creuser. Mais voilà, après, chacun voit comment la situation, là, c'est vraiment très large comme question.
Une petite correction qui émane de Doumé Verdogne, à l'écoute, fidèle au poste, merci Doumé. Les seins de glace, il y en a 8.
Oui, il y a ceux après, avec, je ne sais plus, il y a...
On a envie de... C'est ceux avant en fait, hein. Saint-Georges, Saint-Marc,
voilà.
Sainte-Croix, ça c'est vous.
Merci, bon, ça c'est fait.
Non, mais en fait, voilà, le plus lointain, en fait, c'est le 13 mai avec la Saint-Servais.
Et non, il y en a qui disent qu'il y en a aussi après. J'avais trouvé un truc. Il y en a qui... Mais je pense que ce n'est pas adapté à notre région.
Non, pas nécessairement, parce que ce sont des saints de grêle, de gelée nocturne. Donc, on peut considérer qu'après mi-mai, pour nos plantations, on est un peu plus serein, en fait. Mais on doit un peu attendre cette période délicate, on va dire. Qu'est-ce que vous cherchez ?
Le truc que j'avais trouvé sur les saints de glace, avec des saints qui étaient encore après. Mais après, ça poussait au 23 mai, je crois.
Non,
c'est bon,
au 23 mai encore, il ne faut pas exagérer. On va accueillir Afi Gary-Jérôme. Bonjour.
Oui, bonjour.
Jérôme, si vous coupez le poste le temps de votre intervention, vous serez bien mieux.
Oui, bien sûr.
Ouais, vous aurez moins cet écho, en fait. On vous écoute.
Alors, voilà, j'ai un petit souci. C'est que ça fait 2 ans que j'ai un lilas.
Oui.
Et j'ai remarqué qu'il ne fait pas de fleurs encore. Et c'est un lilas mauve, je crois. Et pourtant, alors, j'ai déjà appelé pour ce souci-là.
Oui.
Et j'ai mis de l'engrais
là,
il n'y a pas longtemps, là, quand c'était le printemps. Et je l'ai bien arrosé et toujours pas de fleurs.
Mais il fait quelle taille, votre lilas ?
Alors là, il fait quelle taille ?
À hauteur, bah,
il
fait 10,
déjà,
là ?
Il est pas vraiment... Enfin, il est grand, enfin grand. Il commence à grandir petit à petit. Enfin, il est pas petit, hein. Il est quand même assez moyen, on va dire.
Il fait 1 mètre, 1,50 m
Oui, vers là, je crois.
Alors, normalement, là, il devrait commencer à fleurir. Après, vous l'avez exposé comment ? Au nord, au sud ?
Bah, il est vers le nord.
Peut-être...
Il est vers le nord et il est mi-ombre, mi-soleil.
Peut-être qu'il a trop froid aussi à l'endroit où il est. Hein.
D'accord.
Et donc là, laissez-lui le temps. Mais si vous voyez que d'ici un an, il n'a pas... Maintenant, là, le lilas, il ne va pas tarder à fleurir. Hein. Donc, s'il n'a pas fleuri, c'est que cette année, c'est un petit peu foutu. Voilà,
oui,
ça c'est
d'accord.
Dit. Mais si l'an prochain il fait rien, il faudra penser à le changer d'endroit parce que peut-être que l'exposition nord ne lui convient pas, trop de froid, il n'a pas assez de lumière, de soleil pour arriver à fleurir.
D'accord.
Voilà.
Ok Patricia, c'est gentil à vous parce que comme moi je me suis demandé en plus, comme j'aime beaucoup les fleurs, enfin surtout les arbustes, et je me suis demandé pourquoi il ne faisait pas de fleurs.
Ben voilà, mais je pense que c'est plus une question d'exposition.
D'accord, merci.
Merci, merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Vos questions à Laetitia Agostini, de 9h à 10h sur RCFM.
Laetitia, un autre experte en jardin.
Et on a Patricia qui vous accueille au standard et qu'on embrasse.
Absolument, et Doumé qui réalise cette émission pour présenter absolument toute l'équipe. Marie de Sartène nous dit que son pamplemoussier a déjà des fleurs. Elle se demande si toutefois elle peut quand même rafraîchir les branches parce qu'il y en a trop.
Aucun souci. Tous les agrumes sont en fleurs. D'ailleurs, quand on se promène à proximité des vergers, ça a une odeur vraiment phénoménale. C'est enivrant comme odeur.
Les orangers notamment, c'est fantastique. Non, c'est vrai, c'est enivrant le mot.
Et par contre, il y a des producteurs, même de clémentines ou autres, qui font la taille une fois que la floraison est passée.
Donc aucun problème pour Marie.
Et d'ailleurs, actuellement, on est en pleine récolte du pomelo de Corse. À ne pas confondre avec le pamplemousse. Le pamplemousse, c'est jaune dedans, jaune dehors. Et il faut mettre à peu près 3 kilos de sucre par pamplemousse pour arriver à le manger.
Il n'est pas très doux.
Non, pas très. Alors que le pomelo, il est rose dedans. Il a une chair rose qui va même jusqu'au rouge. Et lui, on peut le manger sans sucre. Et donc, à l'heure actuelle, on a la récolte des pomelos. Et il y a des ouvriers qui se font piquer. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, on a les fleurs et on a plein d'abeilles. Donc, mais bon, c'est quelque chose de commun. Et on peut très bien faire la taille. La taille, on peut la faire jusqu'au mois de juin, sans souci.
On retrouve au téléphone Jean-Louis. Bienvenue Jean-Louis, merci d'avoir patienté. Vous êtes à Fouriagne.
Oui, bonjour.
On vous écoute Jean-Louis.
Oui, voilà, j'ai un souci avec un citronnier. J'avais un citronnier magnifique qui est mort. Je pense savoir pourquoi. J'avais une cuve de gaz enterrée et j'avais mis des sacs anti-corrosion sûrement. Et je pense que c'est ça qui a tué l'arbre.
Donc ah,
j'en
ça,
ai replanté un, je l'ai arraché. J'en ai replanté un qui a végété pendant quelques temps et puis qui est mort aussi. Et là, j'en ai replanté un autre qui est un peu plus grand.
Au même endroit ?
Oh, eh oui, au même endroit.
Alors, ils risquent de subir le même sort. Parce que si vous avez mis un produit chimique dans le sol, le produit
c'est
va rester...
C'est pas moi qui ai mis le produit chimique.
Non, mais là, autour de la cuve, l'anticorrosion voilà, ou autre, voilà. Les racines, ça ne va pas du tout leur plaire et ce produit va rester pendant...
Il a commencé à mourir du côté de la cuve. Donc,
ouais,
il était magnifique, il était chargé.
À moins de le planter ailleurs, ils vont avoir beaucoup de mal parce que quand ils rencontrent cette substance, ça ne leur plaît pas du tout.
5 hectares de terrain et voilà.
Et il n'y a pas moyen de travailler la terre, non hein. C'est, vous êtes
non,
un
c'est
peu...
pire, parce que vous allez mélanger ce truc à contaminer toute la terre, quoi.
De la terre neuve, hein, de la nouvelle terre.
Oui mais eux, en fait, dès qu'ils vont sortir du trou que vous leur avez fait, les racines vont s'étendre. Et donc, dès qu'elles vont commencer à toucher, ça ne va pas leur plaire. Hein.
Bon, une autre petite question, s'il vous plaît.
Oui.
J'ai une plante, bon, je ne sais pas comment on l'appelle, nous on l'appelle l'épine du Christ. Voilà. Alors, elle fleurit, j'en ai deux. Une qui fleurit bien et une qui fleurit en bas. Du bas, elle ne fleurit pas du haut.
Elles sont plantées au même endroit ?
Non.
Il y en a une qui est à l'ombre. Celle qui fleurit moins bien, elle est à l'ombre.
Non. Non, justement, celle qui fleurit bien, elle est à mi-ombre.
Ben,
et celle qui est en plein soleil.
Ben, c'est vraiment, je pense, une question d'exposition. Hein.
Ouais.
C'est le fait que... Alors, je pensais que c'était plus l'épine du Christ. Elle préfère les endroits ensoleillés, normalement, mais peut-être que le vôtre est beaucoup trop...
Ouais, j'en ai vu une fois au cimetière, c'est un arbre, carrément, un arbuste.
Voilà. Ah oui, il y a des arbustes qui peuvent avoir une belle envergure, en effet.
Mais c'est vraiment une question d'exposition et la zone qui fleurit, c'est la zone qui est le moins soumise à des expositions défavorables, quoi.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Donc le citronnier, il faut que je l'enlève.
Le citronnier, à la limite, mettez-le dans un grand pot, hein.
Mais dans un grand pot, j'ai essayé.
Bon, ça marche pas non plus, ouais. Mais on a peur que votre sol ne soit pas tellement propice à son développement.
S'il y a ce produit dans le sol, ça leur
dit. Non, c'est-à-dire que le produit n'y est plus. Je les ai enlevés. La cuve n'y est plus.
Ouais, mais bon, elle doit certainement.
Vous l'avez enlevé il y a combien de temps ?
Il y a plus d'un an.
Ouais, mais je pense qu'il va falloir encore quelques années avant que ça finisse de s'éliminer. Regardez, moi, ce que je ferais.
À l'emplacement de la cuve, j'ai fait une jardinière avec des plantes grasses. Elles sont magnifiques.
Ah ouais, mais les plantes grasses, c'est vraiment du tout terrain. Vous avez d'un côté les plantes grasses qui résistent à tout et de l'autre côté les agrumes qui sont sensibles à tout. Ça fait une petite...
Ouais, c'est pas comparable. Et... La plante grasse, même chez moi, elle survit.
Voilà.
C'est dire.
Mais par contre, ce que vous pouvez essayer de faire quand même, c'est de vraiment apporter chaque année au printemps du fumier à votre citronnier.
J'ai mis du fumier de chèvre, de brebis,
voilà.
De cheval. J'ai mis du fumier... Mais j'ai les feuilles, il y a des fleurs dessus, il y a des fleurs qui sont encore, ils ont l'air de... Mais les feuilles, elles jaunissent. Alors j'ai pas essayé de la bouillie bordelaise, est-ce que c'est bon ?
La bouillie bordelaise, c'est bon, mais en fait, quand les feuilles jaunissent, c'est qu'il y a d'apport d'eau et ils s'asphyxient. En fait, c'est soit qu'on apporte trop d'eau, soit sinon ils ont rencontré une couche du sol qui est trop tassée. Et donc, c'est là que ça pose problème.
Il y a un petit citron qui est en train de... Ça y est, il a séché. Il a séché.
Voilà, désolé, j'ai pas.
Bien. Je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions de votre appel.
Merci
à bientôt,
beaucoup.
Jean-Louis. Au revoir. On prend également vos questions via Messenger. L'épine du Christ de son nom scientifique Euphorbia mili. On parle à présent d'un figuier de la part de Rose, un figuier qui a poussé spontanément. Il était chargé de figues et elles sont toutes tombées. Madame est dans la plaine d'Alistro.
Et je pense que si là, il y a quelques figuiers qui ont fait déjà des figues et qui tombent, mais ce sont souvent des figuiers sauvages.
Mm-hmm.
Donc je pense qu'il va falloir penser à le greffer.
Ah, vous croyez que c'est ce qui explique la chute des fruits ?
Ben, parce que les sauvages, ils servent à rien, quoi, entre guillemets. Et donc, en fait,
ils ne mènent pas jusqu'au bout leur production.
J'en ai vu un la semaine dernière qui a fait ça.
Bon, après, c'est intéressant. Hein, le figuier sauvage, il est robuste. Mais
et puis, il pollinise les autres. Ouais. Il peut servir, mais voilà.
Pour la production, c'est pas fou tant qu'il n'est pas greffé.
Il vaut mieux le greffer.
Voilà ce que l'on pouvait vous suggérer, vous conseiller, Rose. On prend une autre rafale de SMS, de messages sur Facebook et d'appel au 04 95 32 22 22 juste après ceci. 9h30. C'est samedi et le samedi, vous le savez, nous nous consacrons au jardin avec Laetitia Agostini, notre experte qui répond à toutes vos questions. C'est simple comme un coup de fil auprès de Patricia Gambone qui vous accueille ou comme un petit message que vous rédigeriez accompagné de photos ou pas sur Messenger. On a Marie-Jo qui nous dit que son épine du Christ monte tout droit et fait juste une fleur en haut et en bas.
Alors... Pour moi, il y a peut-être elle cherche la lumière et donc quand elle monte vraiment parce que l'épine du Christ d'habitude elle a plutôt
tonnante.
Un corps retombant. Mmh. D'après moi, elle doit aller chercher la lumière ou peut-être que c'est une épine du Christ, mais je suis pas spécialiste, mais peut-être qu'il y a plusieurs sortes comme le romarin rampant et le romarin classique ou autre. Et le fait qu'elle fleurisse pas au même endroit, ben c'est toujours une question de situation, voilà.
Et du coup, elle aime le soleil, mais un soleil qui ne soit pas trop matinal, par exemple.
Voilà. Alors, l'exposition est, toutes les plantes détestent, c'est simple. Mais après, voilà, il faudrait que je me renseigne plus sur l'épine du Christ. Mais généralement, on en trouve partout hein, de ces plantes et elles sont assez rustiques. Donc, là, elle fait une fleur en haut, une fleur en bas. Et peut-être que l'an prochain, elle en fera une au milieu.
Vos questions à Laetitia Agostini, de 9h à 10h sur RCFM.
Brigitte, par Messenger, nous dit « Bonjour, mes framboisiers ont leurs petites feuilles constellées de taches oranges, toutes petites. Doit-on les traiter ? Merci de votre réponse. »
Alors, j'aimerais savoir si ce sont comme des dépôts oranges ou est-ce que ce sont vraiment le feuillage qui est taché. Si c'est le feuillage qui est vraiment taché, c'est certainement une attaque de rouille, de champignons. Normalement, les framboisiers ne sont pas trop sensibles à ce genre de maladie, mais elle peut faire un traitement à la bouillie bordelaise contre les champignons.
On le renouvelle toutes les 3 semaines ?
On le renouvelle toutes les 3 semaines jusqu'à ce qu'il fasse trop chaud. Et surtout, on fait attention parce que là, les framboisiers, certains ont fleuri. On voit même déjà les petites framboises. Donc, je crois que le délai avant récolte, c'est-à-dire la période à respecter entre la dernière application et la récolte, est de 21 jours.
Ouais, donc, on se dépêche.
Donc, on évite de s'intoxiquer.
Marie-Pierre nous dit « Bonjour et merci RCFM pour vos précieux invités. Voici ma question pour des amis sur le continent à Nice, 700 mètres d'altitude environ. 2 questions. Premièrement, pourront-ils semer ou planter du cresson, salade aux multiples vitamines qui ne serait pas recommandée pour les femmes enceintes, leur a-t-on dit. Est-ce exact et pourquoi ?»
Alors là, il faut appeler ma sorcière bien-aimée, quand c'est les experts avec
Martine Blaise de Perret.
Parce que je ne connais pas les vertus.
Et puis surtout les contre-indications, voilà, s'il y en a.
Je ne suis pas médecin. Hein.
Ça, on ne va pas pouvoir vous répondre. Voilà. Et quand tu as planté et semé du cresson ?
Je pense que tout dépend de la période de semis, parce que je pense qu'à 700 mètres au-dessus des Alpes-Maritimes, il doit faire des belles nuits de gelée, donc on se méfie. Mais après, le cresson est surtout une plante qui est très très sensible et à la pollution, à la pollution du sol. Et donc, si on n'a pas un sol vraiment en parfaite santé, le cresson ne germe pas.
Tout simplement, voilà. Marie-Pierre. Voilà pour les renseignements que l'on pouvait vous fournir aujourd'hui. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone et à vous faire connaître auprès de Patricia Gambone, un numéro que vous connaissez par cœur, même vous, Letty.
Oui, 32 22 22.
04 95 32 22 22. Et sur Messenger, c'est France Bleu RCFM pour nous envoyer vos messages. Il y en a un de Romane. On fait une petite entorse au règlement qui n'a absolument rien à voir avec le jardin, puisqu'elle nous signale qu'il y a un événement du jour à Vico, le numérique pour tous, c'est Digital Factory Impaese. Et comme on ne l'a pas dit effectivement dans l'agenda, vous pouvez participer à des ateliers découvertes, être accompagné à l'usage des outils numériques à partir de 10h ce matin, et même vous procurer des réponses importantes. Il y a une réunion sur les risques et les usages d'Internet à 14h. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse non-jardin que nous refermons immédiatement pour laisser la place à Antoine.
Vos questions à Laetitia Agostini de 9h à 10h sur RCFM.
Ah, il y a une pareille interrogation qui nous est parvenue il y a 2 semaines, Laetitia. Ça concerne le compost. Antoine a de gros vers à l'intérieur et se demande si du coup il peut utiliser ce terreau pour mettre à son potager.
Alors, si c'est les gros vers blancs, les larves de hanneton, c'est des trucs qui sont gros comme un doigt, hein, quasiment.
Il n'y a pas de photo, là.
Ils sont assez moches.
C'est dégoûtant, ce que vous décrivez.
Mais après, je vais raconter un autre truc sur le compost.
C'est aussi gros que ça, le ver du hanneton?
Ouais,
c'est plus gros que le hanneton lui-même.
C'est un comme le petit doigt, hein, mais bien, hein, costaud. Et c'est des gros vers blancs. Là, il vaut mieux tamiser notre compost avant, parce que le ver du hanneton se nourrit des racines. Donc, si on incorpore notre compost au niveau des racines de nos plantes, il va tout consommer. Donc là, on évite, on tamise le compost avant de s'en servir. D'ailleurs, dans les composts, on a parfois des invités surprenants. Patou nous avait envoyé la photo.
Ah oui,
elle a plein de limaces, elle, dans son compost, mais des limaces de compétition, hein, aussi. Et en fait, les limaces, elles viennent là et je lui ai dit, mais le compost, il serait pas un peu humide? Ah oui, peut-être. En fait, elles viennent, elles se mettent au chaud dans le compost et puis il y a un peu d'humidité.
Produit, voilà, de l'humidité.
Elles sont tranquilles, mais en fait, elles sont juste dans le bac, elles ne sont pas à l'intérieur du compost. Mais il faut faire attention parce qu'un compost ne doit jamais être ni trop sec, ni trop humide.
Ouais, ça, c'est pas facile. Comment on fait pour avoir un bon compost?
Alors, c'est très dur à expliquer, mais c'est à l'œil, en fait. On voit, là, il est un peu trop humide. Donc, s'il est trop humide, on peut mettre, par exemple, le sopalin. Bon, pas quand on est malade et qu'on mouche des bactéries, hein, mais on peut mettre des sopalins, on peut mettre des boîtes d'œufs. Vous savez, ces boîtes en carton.
Ah, on peut les mettre.
Et oui, parce que comme ça, c'est fait de cellulose et comme ça, ça absorbe un petit peu l'humidité. Il faut faire attention.
Du feuillage sec, très sec.
Du feuillage sec, mais bon, ça, il faut à l'automne, ouais, mais souvent à l'automne il y a la pluie, donc le feuillage est sec, mais les feuilles sont mouillées, machin. Il faut vraiment essayer d'équilibrer, pas mettre trop de verre, tous les résidus de d'épluchage ou autre. Si notre compost est trop humide, on va ralentir un petit peu. Il faut vraiment trouver toujours un équilibre. Mais moi, j'ai remarqué que les boîtes d'œufs ou les cartons bruns non imprimés, sans encre, ça régule bien quand même l'humidité.
Ok, et c'est normal toutes les petites mouches, moucherons qui sortent ?
Normalement, non.
Ah, d'accord.
Normalement, non. Ça, c'est quand on a une mauvaise fermentation, parce que le compost, à l'intérieur, au cœur du compost, c'est pour ça qu'il doit faire 1 mètre cube à peu près. À l'intérieur, on doit atteindre une température de 80 degrés qui détruit toutes les graines, tous les parasites et autres. Et en surface, on peut avoir quelques moucherons, mais normalement, on ne doit pas, dès qu'on ouvre, avoir une nuée de moucherons, quoi.
Et comment on fait pour les éviter ?
Ça, c'est une fois qu'ils ont pondu là-dedans, alors on peut de temps en temps tourner notre compost avec une espèce de fourche.
Pour les ensevelir,
voilà.
Éventuellement.
Mais c'est une question de ponte.
C'est pas évident, hein.
Il ne faut pas mettre de croûte de fromage, il ne faut pas mettre le
de produits carnés.
Les coquilles d'œufs ne présentent pas un intérêt non plus fulgurant. On peut mettre le marc du café, on peut mettre les sachets de thé. Voilà. Il faut équilibrer, puis c'est à l'œil, quoi.
Vos questions à Laetitia Agostini, de 9h à 10h, sur RCFM.
Vous ne seriez pas une cuisinière, alors une bonne cuisinière, oui, mais qui est dans la transmission, hein.
Ah ben, alors,
on dirait ma mère,
tu vois,
la ciboulette,
comme, ça,
comme tu... Voilà, tu vois bien ce qu'il faut.
Ben oui.
Bof.
Mais ouvrez les yeux, quoi.
On va rejoindre Charles, qui nous a envoyé également des photos. Bonjour Laetitia, j'ai mon clémentinier planté en novembre à Castifao. Les feuilles sont toutes retournées. Que dois-je faire? Merci pour vos conseils. C'est Charles-Pierre donc qui vient de nous écrire avec quelques petites photos. Bon, toutes retournées. Oui, elles ont tendance à se recourber. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas fou, non? Mon Dieu, s'il voyait l'état des miennes, de mon citronnier, il serait déjà en alerte rouge. Elles vous semblent préoccupantes, ces feuilles?
Je pense qu'il y a beaucoup de producteurs, s'ils ont un clémentinier dans ce
sont trop contents.
Ils achètent de suite.
C'est ce qui me semblait.
Elles sont un peu courbées, bah, parce que peut-être elles ont eu un petit coup de sécheresse ou autre. Mais bon, là, on voit, elles avaient pris la pluie, mais non, il n'y a vraiment rien d'inquiétant.
Bon, donc rien de neuf sous le soleil.
Franchement, vous m'auriez fait voir sans me dire que la personne s'inquiète. Ben, ça va, le clémentinier, il est bien.
Voilà, Charles-Pierre. Alors, on a une... Alors, c'est pas une question, je pense que c'est peut-être...
Une réponse.
Une réponse. Une réponse concernant le cresson. Les folates ou vitamine B9 jouent un rôle majeur dans le développement du système nerveux de l'embryon et la prévention des malformations du tube neural. Pensez à la levure en paillettes et aux légumes verts, cresson, épinards, mâches, qui en sont une source intéressante. Voilà pour un complément d'information.
Et pour nous, ça aide pour notre
Dixit,
cerveau.
Dixit, ou... Emma, s'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, n'hésitez pas.
3 kilos d'épinards pour vous à midi.
Laurette, c'est une question qui va vous plaire. Je vois la tête de Oh mon Dieu, le nom m'échappe, aidez-moi. L'arbre, le végétal que vous redoutez à Noël.
Ah ouais, le poinsettia.
Le poinsettia.
Oh, allez, merci, c'était sympa, au revoir.
Elle nous dit, les années précédentes, j'arrivais à la tenir jusqu'en mars. Madame, ça n'est pas chez nous que vous trouverez de bons conseils. Laetitia est une spécialiste de la crevaison de poinsettia. ouais, non, elle est à 9 degrés et bon, il n'est pas en mauvaise santé.
J'en mets un tac le mien, en tout cas.
Non, il est bien, franchement, d'en être arrivé là jusqu'au mois d'avril. Fin avril, c'est top. Hein.
Oui.
Hein, rien à dire, rien à rajouter.
Merci. Vos questions à Laetitia Agostini, de 9h à 10h sur RCFM.
Merci de nous avoir humiliés donc publiquement. Bonjour Henri.
Bonjour. Oui, voilà mon problème. Dans mon compost, donc, j'ai constaté que les épluchures de pommes de terre ont germé et il y a des pousses hautes de 4 cm. Est-ce que je peux les récupérer pour planter ?
Vous pouvez essayer, mais alors moi j'ai un lombricomposteur et l'autre fois c'était les citrouilles qui avaient germé dedans parce que j'y étais franchement, hein, j'ai même mis les graines et tout.
Ah bon ?
Donc récupérer, ouais, parce qu'en fait sur les épluchures de pommes de terre, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, pendant la guerre, épluchaient très très fin, mais... Il y a des fois où elles épluchaient un peu plus épais parce que juste la petite tranche de pommes de terre qu'on laisse dessous permettait aux yeux qui sont sur la peau de démarrer. Et comme ça, plutôt que d'utiliser D'accord. une pomme de terre entière ou une demi-pomme de terre pour faire de la semence, juste avec les épluchures, elles arrivaient à faire de la semence de pommes de terre.
Donc, il fallait... ça se tente.
C'était les restrictions.
Bon,
donc là,
peux essayer, quoi, de toute façon. Hein.
Comment ?
Il peut essayer.
Oui, vous essayez, ça ne mange pas de pain, comme on dit.
Voilà.
Okay. Au pire, ça ne marche pas, et si ça marche, vous nous le dites. Hein.
Mais je pense Absolument. Que ça va marcher, parce que quand il va les mettre en terre, là, elles ont déjà dû faire les racines, il ne faut pas hésiter à prélever avec une bonne partie du compost. Ouais. Et elles vont faire les racines, et vous allez avoir des pommes de terre. Après, vous risquez d'avoir quand même, quand on n'utilise pas une semence entière de pommes de terre, ou une demi-pomme de terre, on a des pommes de terre de plus petit calibre. Donc, vous connaissez l'inconvénient d'avoir des pommes de terre de plus petit calibre ?
Non, au contraire, moi j'aime bien ces tout petits pommes de terre nouvelles.
Parce que c'est pas vous qui les épluchez.
Vous
n'avez
jamais fait de la pomme de terre grenaille, vous en avez pendant 20 ans après dans le terrain. Donc voilà, il faut.
Écoutez, on va tenter, on verra bien. Allez.
Voilà, et puis bonne récolte de pommes de terre alors.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Henri. Au revoir. La dernière vague des auditeurs après une petite chanson. Vous pouvez joindre Laetitia avant 10h. Précipitez-vous pour votre téléphone, même si vous n'avez pas un gros problème, juste une interrogation qui vous passe par la tête.
Et on rigole, ça
concernant un parasite, une couleur de feuille, quelque chose qui vous préoccupe, un arbre qui ne prend pas bien.
Et même si vous voulez nous ridiculiser avec vos
points
cessia,
avec vos points cessia, voilà, et votre réussite, faites-le, on est bon public.
Voilà.
Vos questions à Laetitia Agostini, de 9h à 10h sur RCFM.
Notre experte en matière de jardinage, enseignante du lundi au vendredi au lycée professionnel de Borgo. Comment se sont passées vos journées portes ouvertes ?
Très bien, on a eu un succès fou, on a eu du monde, on a eu des jeunes qui sont venus ensuite faire des mini-stages, parce qu'il faut savoir que si vous êtes en seconde, en troisième ou autre, votre établissement peut vous autoriser à faire un stage, c'est-à-dire que vous venez passer la journée avec nous, dans la filière de votre choix, et bon, ben moi, ils se sont retrouvés où, d'après vous ? Aux Agnelles. Donc non, on a eu des jeunes qui sont venus en mini-stage et c'était très très bien.
Puis vous avez fait des photos sublimes sur les bottes de foin, c'était trop joli.
Ouais, le canapé.
Bon, comment se portent-elles, ces Agnelles ?
Elle se porte bien, mais on a un petit souci à l'heure actuelle au lycée agricole.
Parce qu'on
a deux chiens qui viennent, une espèce de bosseron et un setter. Et ils viennent, ils ont trouvé qu'il y avait des copines, il y a les agnelles.
Ils doivent les affoler, oui, ça c'est pas très bon.
Ils les affolent. L'autre jour, elles sont rentrées en furie dans la bergerie.
Au risque de se blesser, oui.
Certaines se sont un peu griffées ou autres, rien de bien méchant. Mais apparemment, ils viennent du lotissement à côté du lycée, donc nous ne sommes pas rassurés. Nos agnelles sont à l'herbe, il y a une clôture électrique.
Ah mince.
Qui fait qu'un mètre de haut, donc ces chiens peuvent la sauter.
Ah mais moi qui comptais vous demander des nouvelles sympas, non, vous avez...
Puis je suis un peu en colère parce que maintenant ils ont compris qu'il y avait les agnelles là, donc là c'est les vacances, il faut rester à côté des agnelles pour surveiller que ces chiens ne viennent pas les embêter. Donc pour l'instant ils viennent, ils regardent, mais si un de ces jours il y a un problème, il va falloir que l'on porte plainte.
Ben alors c'est peut-être le moment de dire à ces propriétaires de chiens de ne pas les lâcher parce qu'il y a
chien,
proximité.
On a son chien, oui. On le promène, mais on ne le laisse pas aller vagabonder. Alors c'est valable pour les agnelles du lycée agricole, mais c'est valable pour tous les animaux de tous les exploitants de toutes les régions. Quoi.
Edette.
Voilà, je suis désolée.
Peut-on greffer un pomelo sur un pamplemoussier?
Oui.
Réponse nette et précise.
Alors,
on s'y prend quand, comment,
Il y a plusieurs techniques de greffe. Après, il faut savoir qu'on risque d'avoir un effet filtre quand même. Normalement, on greffe le pommelot directement sur le porte-greffe. Cependant, moi je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Nous avions des prunes sur l'exploitation où j'étais et la variété ne se vendait pas. Et notre verger, il n'était pas très vieux. On a dit, on ne peut pas garder ces prunes qui ne se vendent pas. On les cultive pour rien.
Et en même temps, on ne peut pas tout éliminer.
Et tout arracher, ça a coûté,
ça fait mal au
etc.
Cœur.
Donc, en fait, on a fait ce que l'on appelle du surgreffage. Et donc, là, c'est le cas. On peut surgreffer du pommelot sur du pamplemousse. Et tout dépend. On peut greffer à l'œil, on peut greffer en fente. Tout dépend de la technique que l'on maîtrise.
Il y a une période pour greffer?
Ça dépend le type de greffe que vous voulez faire.
Ouais, enfin, si j'ai besoin de rien, je vous appelle.
Voilà. Si vous avez... non, en fait, en ce moment, on va pouvoir greffer à l'œil. On peut greffer à l'œil.
Dites-nous quand même un petit élément de réponse précise, bon sang.
Après, l'œil, c'est un peu plus délicat. Donc, certains jardiniers amateurs préfèrent faire de la greffe en fente. Et la greffe en fente se fait plutôt en sortie d'hiver.
Ok.
Voilà.
Donc, on a un peu raté le coche.
Voilà, mais après... Je trouve que pour les agrumes, greffer à l'œil, c'est pas mal. Donc, en fait, on prélève l'œil du pommelot qu'on va venir insérer sur une tige du pamplemousse. On ligature tout ça. Mais il faut avoir la technique quand même pour bien prélever les yeux.
Bon, mais si ça se trouve dans le village à côté, vous avez quelqu'un qui est connu pour avoir ce savoir-faire.
Et puis après, sinon... Il n'y a rien de mieux que de s'entraîner. Il faut forger pour devenir forgeron. Il faut greffer pour devenir greffeur. Et on fait sur une branche. Et puis, on voit si notre œil y prend. Et puis, on en fait deux ou trois à la limite. Parce qu'à la limite, si l'œil ne prend pas, on n'a pas sacrifié notre arbre pour rien. Ça cicatrise, l'œil est expulsé. Et puis, on recommence l'année prochaine. Et voilà.
On va dans la Cité du Sel retrouver Marie-Ange au téléphone. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà une petite question. J'ai un pittosporum qui a jaune. Je les vois de partout, bien vert et bien beau à l'œil. Et le mien, est... les feuilles sont jaunes. Je ne comprends pas pourquoi. Il s'étale bien. Il est vivant, mais...
Elles sont jaunes ou est-ce qu'elles sont panachées?
Non, elles sont jaunes.
Alors, parce que parfois... Alors,
panachées, vous voulez dire... J'en ai certaines qui sont vertes, effectivement. Mais d'autres sont jaunes. Et là, il y a des petites fleurs blanches.
Mais ce n'est pas la feuille, le feuillage panaché, vous savez, c'est par exemple les ficus ou autres qui ont les feuilles vertes et jaunes. Vous, non. Certaines sont vertes et d'autres sont jaunes parce qu'elles souffrent.
Voilà.
Alors, est-ce qu'il est planté à quel niveau? Parce que souvent, on a tendance à planter les pittosporums pour garnir un endroit qui est un peu...
Sous des chênes verts.
Ah. Bon, ben voilà.
Et à côté d'un pied de romarin.
Eh ben, il faut savoir que le chêne vert, il n'aime pas trop la concurrence. Donc, peut-être qu'il est en train d'asphyxier votre pittosporum. Soit vous pouvez le déplacer, mais j'ai des doutes. Soit sinon, essayez de lui apporter, de biner toute la surface et de lui apporter bien de l'engrais, du fumier et autres.
Engrais, lequel? Quel engrais?
Un engrais pour plantes, un engrais complet, quoi, un engrais classique.
D'accord, ok.
Voilà.
Non, Ok, bon, on va essayer.
Mais je pense que c'est la concurrence avec le chêne. Oui. Moi, je pensais que peut-être, souvent les pittosporums, on les plante dans des zones où il y a un muret, où il y a des gravats ou autre. Et donc, quand le sol est vraiment trop pauvre, ils ont du mal. Mais parce que normalement, le pittosporum est quelque chose, une espèce assez rustique qui est bien adaptée à nos climats et il pousse un peu partout. Mais là, je pense que c'est la concurrence avec le chêne qui le dérange.
Ouais, donc c'est pas très joli ces feuilles jaunes, effectivement. Parce que quand ils sont très verts, ils sont beaux, mais jaunes, c'est pas joli.
Mais apportez-lui. Alors, il n'est pas mort, hein, parce qu'il fait quand même des fleurs, etc. Donc apportez-lui, si vous avez moyen de récupérer du fumier, apportez-lui une bonne dose de fumier, ça l'aidera à bien s'ancrer et après, il pourra mieux résister contre les chênes verts.
Fumier de cheval.
Cheval, chèvre, brebis.
Vieux, là, Marie-Ange. Vieux.
Ouais. On en trouve chez Dame Vert, dans les magasins de Nantes.
Oui, on les trouve en jardinerie, mais sinon, on les trouve chez tous les exploitants, les centres équestres, voilà.
D'accord, très bien. Et quand j'écarte un peu les feuilles, à l'intérieur, c'est vert.
Oui, ben c'est là, c'est...
Les surface.
Ce sont les feuilles en surface.
Vous êtes à Bonifacio.
Porto Vecchio, non ?
Porto Vecchio. Ouais. Il n'a pas pu prendre le froid.
Non,
je pense que c'est juste qu'il souffre un peu parce que les jeunes feuilles, elles sortent, elles sont gorgées de tout ce que la plante peut leur produire, peut leur fournir. Et les vieilles, ben, elles ont un peu galéré parce que le chêne, il puise. Donc, je pense que si on lui préserve un petit cocon, il repartira bien.
Très bien, je vous remercie.
Merci à vous, Marie-Ange. Au revoir.
Au revoir.
Notre dernière question de Nathalie à Okana. Bonjour.
Bonjour. C'était juste pour apporter une petite note de sourire à Laetitia.
Oui.
Et... C'est vrai que je suis très triste comme
chien. Non, mais pas, vous avez été partiellement énervée, ma grande, sur les chiens.
Ah oui, ça, les chiens,
complètement
ça m'a énervée.
Énervée même.
J'étais dans une fureur noire.
Voilà. C'est juste pour. On avait des. J'avais acheté des chouchous, la chayotte, et. Je les ai laissés, donc c'était pour manger. Je les ai oubliés dans un placard et puis j'ai commencé à voir une liane sortir. Je les ai mises dans un saladier et j'ai dit bon, je les planterai. Et puis je les ai mises dans une chambre où il y a un petit peu de clarté. Et là, j'ai les lianes, les feuilles qui poussent sans terre, sans rien, qui courent vers la fenêtre. Voilà, donc c'était pour vous faire sourire.
C'est sûr. Vous êtes envahie de l'intérieur par les plantes. Mais pensez à les planter parce que là, pour l'instant, elles puisent tout ce qu'il y a dans la chayotte. Mais un jour, il n'y aura plus assez de réserves et ça serait dommage si vous aimez ça. Moi, personnellement, si vous ne les plantez pas, ça ne me dérange pas, je déteste.
Pourtant, c'est très bon agrémenté avec du safran.
Avec les brochettes à côté, ça doit être bon.
Non, avec du safran. Vous les faites avec du safran et du curry ou des tomates concassées de l'ail et frites. C'est délicieux.
Ok, j'essaierai, mais pour l'instant...
Voilà, c'était juste pour vous apporter un peu de sourire et vous faire oublier ces vilains chiens.
merci, c'est très gentil.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Il est déjà l'heure de nous séparer. On a une toute petite question sur Messenger de Françoise. Bonjour, mon abricotier n'a pas de fruits cette année, elle se demande pourquoi.
L'an dernier, il a dû énormément produire et donc c'est ce que l'on appelle tout simplement l'alternance. Attention, les abricotiers aussi, quand on les chouchoute trop, ne font pas de fruits. Donc,
il faut les stresser un peu.
On lui coupe un peu les
vivres.
Emma. Et ça le remettra dans la ligne droite.
Laetitia, ce fut un plaisir comme d'habitude.
Plaisir partagé.
Bises.
Bisous, à bientôt.